Chapitre 1. Arrivée dans la mer jaune. Lundi 24 septembre 1900. L'extrême matin sur une mer calme et sous un ciel d'étoiles. Une lueur à l'horizon oriental témoigne que le jour va venir, mais il fait encore nuit. L'air est tiède et léger. Est-ce l'été du nord ou bien l'hiver des chauds climats? Rien en vue nulle part, ni une terre, ni un feu, ni une voile. Aucune indication de lieu, une solitude marine quelconque, par un temps idéal, dans le mystère de l'aube indécise. Et comme un léviathan qui se dissimulerait pour surprendre, le grand cuirassé s'avance silencieusement, avec une lenteur voulue, sa machine tournant à peine. Il vient de faire environ 5 000 lieues, presque sans souffler, donnant constamment par minute 48 tours de son hélice, effectuant d'une seule traite, sans avarie d'aucune sorte et sans usure de ses rouages solides, la course la plus longue et la plus soutenue en vitesse qu'un monstre de sa taille ait jamais entreprise, et battant ainsi dans cette épreuve de fond des navires réputés plus rapides qu'à première vue on lui aurait préféré. Ce matin, il arrive au terme de sa traversée. Il va atteindre un point du monde dont le nom restait indifférent hier encore, mais vers lequel les yeux de l'Europe sont à présent tournés. Cette mer, qui commence de s'éclaircir si tranquillement, c'est la mer Jaune, c'est le golfe du Pechili, par où l'on accède à Pékin. Et une immense escadre de combat, déjà rassemblée, doit être là tout près, bien que rien encore n'en dénonce l'approche. Depuis 2 ou 3 jours, dans cette mer jaune, nous nous sommes avancés par un beau temps de septembre. Hier et avant-hier, des jonques aux voiles de natte ont croisé notre route, s'en allant vers la Corée. Des côtes, des îles nous sont aussi apparues, plus ou moins lointaines. Mais en ce moment, le cercle de l'horizon est vide de tous côtés. À partir de minuit, notre allure a été ainsi ralentie, afin que notre arrivée, qui va s'entourer de la pompe militaire obligatoire, n'ait pas lieu à une heure trop matinale, au milieu de cette escadre où l'on nous attend. 5 heures. Dans la demi-obscurité encore, éclate la musique du branle-bas, la gaie sonnerie de clairons qui chaque matin réveille les matelots. C'est une heure plus tôt que de coutume, afin qu'on ait assez de temps pour la toilette du cuirassé, qui est un peu défraîchi d'aspect par 45 jours passés à la mer. On ne voit toujours que l'espace et le vide. Cependant, la vigie, très haut perché, signale sur l'horizon des fumées noires. Et ce petit nuage de houille, qui d'en bas n'a l'air de rien, indique là de formidables présences. Il est exhalé par les grands vaisseaux de fer, il est comme la respiration de cette escadre sans précédent à laquelle nous allons nous joindre. D'abord la toilette de l'équipage avant celle du bâtiment. Pieds nus et torse nus, les matelots s'éclaboussent à grande eau dans la lumière qui vient. Malgré le surmenage constant, ils ne sont nullement fatigués, pas plus que le vaisseau qui les porte. Le redoutable est du reste, de tous ces navires si précipitamment partis, le seul qui, en chemin, dans les parages étouffants de la mer Rouge, n'ait eu ni mort, ni maladie grave. Maintenant le soleil se lève, tout net sur l'horizon de la mer, disque jaune qui surgit lentement de derrière les eaux inertes. Pour nous, qui venons de quitter les régions équatoriales, se lever, très lumineux pourtant, à je ne sais quoi d'un peu mélancolique et de déjà terni, qui sent l'automne et les climats du nord. Vraiment, il est changé ce soleil depuis 2 ou 3 jours. Et puis, il ne brûle plus, il n'est plus dangereux, on cesse de s'en méfier. Là-bas, devant nous, sous le nuage de houille, des choses extra-lointaines commencent de s'indiquer, perceptibles seulement pour des yeux de marin. Une forêt de pics, dirait-on, qui serait plantée au bout, tout au bout de l'espace, presque au-delà du cercle où s'étend la vue. Et nous savons ce que c'est, des cheminées géantes, de lourdes mâtures de combat, l'effrayant attirail de fer qui, avec la fumée, révèle de loin les escadres modernes. Quand notre grand lavage du matin s'achève, quand les seaux d'eau de mer lancés à tour de bras ont fini d'inonder toute chose, le redoutable reprend sa vitesse moyenne de 11,5 nœuds, qu'il avait gardée depuis son départ de France. Et pendant que les matelots s'empressent à faire reluire ses aciers et ses cuivres, il recommence de tracer son profond sillage sur la mer tranquille. Dans les fumées de l'horizon, les objets se démêlent et se précisent. On distingue sous les mâtures innombrables les masses de toutes formes et de toutes couleurs qui sont des navires. Posée entre l'eau calme et le ciel pâle, la terrible compagnie apparaît tout entière, assemblage de monstres étranges, les uns blancs et jaunes, les autres blancs et noirs, les autres couleurs de vase ou couleurs de brume pour se mieux dissimuler. Des dos bossus, des flancs à demi noyés et sournois, d'inquiétantes carapaces. Leur structure varie suivant la conception des différents peuples pour les machines à détruire, mais tous, pareillement, soufflent l'horrible fumée de houille qui ternit la lumière du matin. On ne voit toujours rien des côtes chinoises, pas plus que si on en était à 1000 lieues ou si elles n'existaient pas. Cependant, c'est bien ici, Taku, le lieu de ralliement vers lequel, depuis tant de jours, nos esprits étaient tendus. Et c'est la Chine, très proche bien qu'invisible, qui attire par son immense voisinage cette troupe de bêtes de proie et qui les immobilise comme des fauves en arrêt sur ce point précis de la mer que l'on dirait quelconque. L'eau, en cette région de moindre profondeur, a perdu son beau bleu auquel nous venions si longuement de nous habituer. Elle devient trouble, jaunâtre, et le ciel pourtant sans nuages est décidément triste. La tristesse d'ailleurs se dégage au premier aspect de cet ensemble dont nous allons sans doute pour longtemps faire partie. Mais voici qu'en approchant, tout change, à mesure que monte le soleil, à mesure que se détaillent mieux les beaux cuirassés reluisants et les couleurs mêlées des pavillons de guerre. C'est vraiment une étonnante escadre qui représente ici l'Europe, l'Europe armée contre la vieille Chine ténébreuse. Elle occupe un espace infini, tous les côtés de l'horizon semblent encombrés de navires. Et les canots, les vedettes à vapeur, s'agitent comme un petit peuple affairé entre les grands vaisseaux immobiles. Maintenant, les coups de canon partent de tous côtés pour la bienvenue militaire à notre amiral. Au-dessous du voile de fumée sombre, les gaies fumées claires de la poudre s'épanouissent en gerbes, se promènent en flocons blancs. Le long de toutes les mâtures de fer, montent et descendent en notre honneur des pavillons tricolores. On entend partout les clairons sonner, les musiques étrangères jouer notre Marseillaise, et on se grise un peu de ce cérémonial, éternellement pareil, mais éternellement superbe, qui emprunte ici une magnificence inusitée au déploiement de ses flottes. Et puis le soleil à la fin s'est réveillé et flamboie, nous apportant pour notre jour d'arrivée une dernière illusion de plein été, dans ce pays aux saisons excessives qui, avant 2 mois, commencera de se glacer pour un long hiver. Quand le soir vient, nos yeux, qui s'en lasseront bientôt, s'amusent cette première fois de la féerie à grand spectacle que les escadres nous donnent. L'électricité s'allume soudainement de toutes parts, l'électricité blanche ou verte ou rouge ou clignotante ou scintillante à éblouir. Les cuirassés, au moyen de jeux de lumière, causent les uns avec les autres, et l'eau reflète des milliers de signaux, des milliers de feux, pendant que les longues gerbes des projecteurs fauchent l'horizon ou passent dans le ciel comme des comètes en délire. On oublie tout ce qui couve de destruction et de mort sous ces fantasmagories dans des flancs effroyables. On est pour l'instant comme au milieu d'une ville immense et prodigieuse qui aurait des tours, des minarets, des palais et qui se serait improvisée par fantaisie en cette région de la mer pour y donner quelques fêtes nocturnes extravagantes. 25 septembre. Nous ne sommes qu'au lendemain et déjà rien ne se ressemble plus. Dès le matin, la brise s'est levée, à peine de la brise, juste assez pour coucher sur la mer les grands panaches obscurs des fumées. Et déjà les lames se creusent dans cette rade ouverte, peu profonde, et les petites embarcations en continuel va-et-vient sautillent, inondées d'embrun. Cependant, un navire aux couleurs allemandes arrive lentement du fond de l'horizon, comme nous étions arrivés hier. C'est la Hertha, tout de suite reconnue, amenant le dernier des chefs militaires que l'on attendait à ce rendez-vous des peuples alliés, le feld-maréchal de Waldersee. Pour lui, recommencent alors les salves qui nous avaient accueillis la veille, tout le cérémonial magnifique. Les canons de nouveau épandent leurs nuages, mêlent des ouates blanches aux fumées noires, et le chant national de l'Allemagne, répété par toutes les musiques, s'éparpille dans le vent qui augmente. Il souffle toujours plus fort, ce vent, plus fort et plus froid, mauvais vent d'automne, affolant les baleinières, les vedettes, tout ce qui circulait hier si aisément entre les groupes d'escadres. Et cela nous présage de tristes et difficiles jours, car sur cette rade incertaine qui devient dangereuse en une heure, il va falloir débarquer des milliers de soldats envoyés de France, des milliers de tonnes de matériel de guerre. Sur l'eau remuée, il va falloir promener tant de monde et tant de choses dans des chalands, dans des canots, par les temps glacés, même par les nuits noires, et les conduire à tas-coups, par-dessus la barre changeante du fleuve. Organiser toute cette périlleuse et interminable circulation, ce sera là surtout pendant les premiers mois notre rôle à nous, marins, rôle austère, épuisant et obscur, sans apparente gloire.